Hannibal, c'est une série de network. C'est une série qui est passée sur NBC, qui a été produite entre 2013 et 2015. Elle a 3 saisons. Son showrunner, c'est Brian Fuller, qui s'était déjà illustré, fait connaître notamment par la série Pushing Daisies, qui a déjà une identité visuelle assez forte. Et avec dans les rôles principaux, donc Mads Mikkelsen, qui prend le rôle de Hannibal Lecter, qui reprend le rôle qu'on avait déjà connu, évidemment immortalisé par Anthony Hopkins. Je vais revenir évidemment sur cette reprise. Et l'acteur Hugh Dancy, qui interprète Will Graham. Donc ce sont les personnages principaux. Donc voilà, je pense que c'est une surprise pour personne. Hannibal, c'est pas une série originale. C'est une série qui est tirée tout d'abord d'une tétralogie de romans de Thomas Harris, qui mettent tous en scène ce personnage extrêmement célèbre, voire considéré comme culte, entre guillemets, de Hannibal Lecter, le psychiatre cannibale. Et cette saga, même si on ne l'a pas lue, on la connaît souvent de par ses adaptations cinématographiques. Tous les tomes ont été adaptés au cinéma, dont un deux fois. Le premier tome qui a été écrit, qui n'est pas le premier tome dans la chronologie de l'histoire, de la diégèse, j'y reviendrai, mais le premier tome écrit, Dragon Rouge, Red Dragon, a été porté deux fois à l'écran, une première fois dans les années 80 sous le titre Manhunter, et ensuite Dragon Rouge plus récemment, ça devait être 2002, quelque chose comme ça. Rapidement, voilà, Hannibal, c'est une série qui arrive avec déjà un certain bagage intertextuel. C'est une série télévisée qui relève à la fois de l'adaptation de romans et du remake ou du reboot. Alors, la frontière est parfois un petit peu floue, donc de film. En tout cas, c'est une réécriture. C'est une réécriture d'une histoire dans une diégèse existant déjà. Alors oui, peut-être reboot au lieu de remake, puisqu'elle transpose l'histoire de nos jours. Normalement, ça se passe plutôt dans les années 80-90, le Silence des Agneaux, donc et les autres, évidemment. Donc, une adaptation de nos jours. Donc, elle participe de cette tendance sérielle américaine vraiment contemporaine de réappropriation et d'adaptation de matériaux déjà existants. Hannibal va se distinguer de ces séries adaptations, justement, on peut citer Game of Thrones, ce genre de choses, House of Cards, comme séries très très populaires qui sont en fait des adaptations pour leur version américaine. Elle va s'en distinguer parce que ce n'est pas une adaptation stricto sensu, c'est en fait une série qui a pour vocation au départ de combler des vides narratifs qui sont présents dans la saga de Harris et ensuite dans les films. Mais surtout dans la saga, puisque ce sont dans la saga littéraire, puisque ce sont des événements qui sont évoqués en filigrane dans les romans sans avoir été vraiment traités diégétiquement. Donc c'est ce qu'on va appeler du coup une prequel series, une série préquelle, au même titre que Bates Motel par exemple, avec laquelle on peut trouver des points communs à ce titre. Bates Motel qui est une série préquelle évidemment de Psychose. Donc Léa Auger, qui est une étudiante qui en master a consacré un mémoire sur justement ces deux séries, Hannibal et Bates Motel, considère que les prequel series, particularité des prequel series, c'est de constituer, je la cite, le dernier maillon d'une chaîne où dialoguent différents médiums qui s'influencent les uns les autres. Et ça va être intéressant évidemment pour interroger la fin d'Hannibal, de prendre en compte le fait que convergent finalement différents médiums antérieurs qui ont déjà traité ce matériau narratif. Alors rapidement, Hannibal, c'est une série qui a connu un succès d'estime, un succès critique, qui a vu se développer une fanbase, un fandom assez investi. Il y a vraiment des fans très investis, mais sans doute à cause de ses partis pris narratifs et esthétiques assez radicaux. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, elle est tout à fait particulière dans son traitement à la fois narratif et esthétique. Elle n'a pas vraiment rencontré son public, en tout cas elle n'a pas su toucher un très large public, et donc c'est une série, surtout pour une série de network, elle est quand même assez radicale, assez particulière, trop sans doute. Non pas au sens où moi je considère que ce soit le cas, mais ça n'a pas touché un public très large, un public dont une série de network a besoin pour pouvoir continuer, donc elle a été annulée au terme de sa 3e saison. Alors, elle avait échappé de justesse après la saison 2, elle avait dû être annulée, finalement elle s'était un petit peu rattrapée aux branches, on avait réussi à la sauver pour une saison 3, mais au terme de la 3e saison, donc elle a été annulée. Alors on peut considérer qu'Hannibal, c'est une série qui a une dimension téléologique, qu'elle nous dirige vers une fin, qu'elle se dirige vers un dénouement, ou du moins qu'elle est porteuse de questions qui appellent une réponse. Comme elle a été annulée plus tôt que ne laisse compter son créateur, Il est possible désormais de la repenser à partir de la fin, de faire ce travail pour déterminer si elle parvient justement à apporter les réponses à ces questions qu'elle traitait donc tout au long de ces trois saisons. Et donc on va se demander si, de par ce statut de série annulée, elle apporte une conclusion satisfaisante, entre guillemets, d'un point de vue à la fois narratologique, est-ce qu'elle apporte, elle arrive à apporter un vrai dénouement, et aussi affectif. Hein. On va évidemment poser la question du deuil du spectateur, ce qu'a un peu évoqué Hélène, le fait de se retrouver après la série, et maintenant, est-ce que à ce niveau-là, la série arrive à apporter quelque chose de satisfaisant. Alors, pour ce faire, je vais me proposer d'analyser d'abord cette fin en la replaçant dans son rôle d'œuvre intertextuelle, hein, ça me paraît difficile de l'aborder sans parler de ce côté multiréférentiel de la série de Fuller. Et ensuite, donc, je voudrais évoquer le paradoxe de cette fin qui n'était pas censée en être une, alors même qu'on va le voir, son principe de clôture-ouverture a quelque chose d'assez conclusif, hein, d'assez définitif finalement. On va le regarder dans un instant. Et puis, à partir de là, je reviendrai plus précisément sur les derniers plans, sur la séquence de fin et les ultimes plans, pour me demander si au niveau esthétique et formel, on arrive à atteindre ce point final satisfaisant qu'on est en droit d'attendre, bien sûr, d'une série télévisée qui s'achève. Le dernier arc de la troisième saison de Hannibal traite de la traque et de la recherche donc d'un serial killer qui s'appelle Dragon Rouge. Hannibal, qui avait été mis sous les verrous, puisqu'évidemment il avait été démasqué en tant que cannibale, et Will Graham, qui est un enquêteur du FBI, monte une espèce de piège pour Dragon Rouge, donc ce serial killer qu'ils vont arrêter, enfin non pas arrêter, justement essayer d'arrêter, et en fait ils vont réussir à le tuer, ils vont être attaqués par lui. Pour commencer, ça me paraît difficile de traiter de cette fin, justement sans prendre en compte ce statut à la fois d'adaptation, de préquel, de remake ou reboot. Donc le matériau à la fois narratif et esthétique qui est travaillé a été puisé tant dans les romans de Harris que dans les différentes adaptations cinématographiques auxquelles ces romans ont donné lieu. Donc à ce titre, la série Hannibal, la série de Fuller, c'est un véritable palimpseste, hein, pour reprendre l'expression de Jeunette, qui est nourrie de toutes ces strates narratives antérieures accumulées les unes sur les autres avec tout ce jeu d'intertextualité qui est extrêmement intéressant tout du long de la série. Donc à partir de là, c'est intéressant, me semble-t-il, d'adopter une approche poétique, hein, pour se demander dans quelle mesure cette série, plus particulièrement sa fin, négocie avec ces éléments intertextuels pour se les approprier et ou s'en affranchir. Donc j'ai déjà expliqué, hein, brièvement que ce terme d'adaptation que j'ai employé au début, en fait il est impropre. On peut parler dans une certaine mesure d'adaptation, mais c'est absolument pas une adaptation au sens strict comme Le silence des agneaux était une adaptation du roman ou les autres œuvres, hein, évidemment étaient des adaptations extrêmement fidèles, extrêmement pour certaines littérales des romans. Alors, c'est un petit peu moche, mais ça a la vertu de... Oui, voilà, vous pouvez vous extasier devant mes talents de graphiste au passage. Non, j'ai juste voulu montrer d'une manière assez sommaire où, justement, se calent ces saisons de série par rapport à la chronologie diégétique d'Hannibal. Alors, c'est pas la chronologie de la parution, hein, mais peu importe aujourd'hui. On a donc trois romans. Dragon Rouge, Le silence des agneaux, Hannibal, qui ont été écrits par Harris. Ensuite, Harris a écrit lui-même un préquel, Hannibal Rising, Hannibal, les origines du mal en français. Et donc, on a différentes adaptations cinématographiques, comme vous pouvez le voir. Et la série de Fuller, elle commence entre Hannibal Rising, qui parle vraiment de l'enfance et de l'adolescence d'Hannibal, comment il est devenu un psychopathe, un meurtrier, cannibale. Et l'intrigue du premier roman en date, Dragon Rouge, dans lequel Hannibal a déjà été arrêté. Hein, c'est un cannibale qui a déjà été identifié, arrêté, et l'agent du FBI qui avait contribué à son arrestation, Will Graham, fait appel à lui pour résoudre une énigme posée par les meurtres d'un meurtrier, d'un serial killer qu'on va appeler le Dragon Rouge. Donc on voit que la saison 1 et la saison 2 prennent en charge des éléments narratifs qui sont évoqués, en pointillés, dans les romans, dans Dragon Rouge, dans Le silence des agneaux, mais qui ne sont pas traités à part entière dans la diégèse. Ensuite, fait intéressant, pour la saison 3, la première partie de la saison 3, Fuller a pris en fait le scénario d'Hannibal. Il a joué avec la chronologie, il a déconstruit complètement la chronologie des romans. Il a pris le scénario d'Hannibal, donc le dernier roman en date de Harris, le dernier dans la diégèse, pardon, celui dans lequel Hannibal s'est enfui en Italie, est poursuivi normalement par Clarice Starling. Là, il est poursuivi par donc Will Graham, encore une fois, et par James Crawford, qui est le chef du FBI. C'est le premier arc de la saison 3. Cette partie-là prend également en charge une autre intrigue avec un personnage de milliardaire qui s'appelle Mason Verger, qui est aussi présent dans les romans et dans la saison 2. Et puis, le dernier arc, les 5-6 derniers épisodes, prennent en charge l'intrigue qui a été écrite par Harris, qui est l'intrigue du Dragon Rouge, mais avec certains remaniements. Pour aller un petit peu vite, donc je l'ai dit, hein, on voit que Harris, il s'était lui-même livré à l'exercice du prequel quand il a écrit Hannibal Rising, mais c'est pas cette partie-là qui est prise en charge par la série, et donc la série va, au début du mois, déployer des pans narratifs, des développements narratifs inédits par rapport au matériau de départ. Alors, on va pouvoir considérer que cette série, elle comporte ce qu'on va appeler, à la suite de Florent Favart, une promesse de dénouement, hein, c'est-à-dire qu'elle appelle la résolution d'un problème, le rétablissement d'un équilibre. Mais cette promesse, elle n'est pas seulement diégétique, hein, il ne s'agit pas seulement de se demander quand et comment Hannibal va être arrêté et ensuite comment les autres serial killers vont à leur tour être arrêtés. Elle est conditionnée par des éléments extra-diégétiques, du fait que l'univers de départ soit déjà connu. On sait que la série va suivre une trajectoire pré-tracée, au moins dans une certaine mesure. Donc ce que Nathalie Maroud appelait dans sa thèse le jeu des possibles scénaristiques n'a pas la même amplitude, hein, n'a pas la même latitude que dans une série originale où on va se poser 1000 questions sur ce qui va arriver au personnage. Là, on a les grandes lignes, au moins en théorie, mais on se demande comment on va y arriver. Donc le spectateur averti, évidemment, il va prendre en compte sa connaissance de l'intrigue originelle, hein, et il va attendre notamment le moment où Brian Fuller, donc le showrunner de la série, va faire coïncider sa narration, sa série, avec l'intrigue du Dragon Rouge, donc la création originale. On a, je vous disais, une promesse de dénouement, et la série est sous-tendue par ce que Raphaël Baroni appelle une tension narrative. Hein, la tension narrative, c'est, je cite Baroni, le phénomène qui survient lorsque l'interprète d'un récit est encouragé à attendre un dénouement, et cette attente est caractérisée par une anticipation teintée d'incertitude qui confère des traits passionnels à l'acte de réception. La tension narrative sera ainsi considérée comme un effet poétique qui structure le récit, et on reconnaîtra en elle l'aspect dynamique ou la force, entre guillemets, de ce qu'on a coutume d'appeler une intrigue. Donc ce qui est intéressant ici, c'est la dimension proprement émotionnelle, hein, des productions sémiotiques. Baroni parle de la fonction thymique du discours narratif, c'est-à-dire la curiosité de ce qui va se produire. Ici, la fonction thymique, elle est assurée par le suspense. Ce suspense, il est conditionné par l'appartenance générique de la série, hein, puisque de l'œuvre en général, de toutes les intrigues d'Hannibal, ça s'inscrit dans le genre thriller, teinté d'horreur. Donc le thriller et l'horreur, ce sont des genres qui sont porteurs d'un suspense qui a vocation à être levé. Alors on va se demander à quel moment le tueur sera identifié, à quel moment il va être arrêté, est-ce qu'il va être arrêté ou est-ce qu'il va au contraire échapper à la police. Ce type de dénouement peut donc être provoqué par ce qu'Umberto Eco va appeler soit une révélation, soit un dévoilement. On a ça dans Breaking Bad, dans Dexter, hein, des séries où on sait que le personnage est un serial killer, on se demande si et quand et comment il va être arrêté ou est-ce qu'il va au contraire s'en sortir. Mais Hannibal va déplacer, donc je vous le disais, cette question nodale, hein, cette question prise et reprise et retravaillée sans cesse par l'intrigue, parce qu'il ne s'agit pas tant de savoir où va la série que se demander comment elle va y arriver, se demander comment on va arriver, on va raccrocher les wagons, si vous voulez, à ce qui a été écrit par l'auteur de départ. Alors ce qui est intéressant d'Hannibal, c'est que justement, dans les 3 saisons, Brian Fuller, il va jouer de ses références intertextuelles, il sait que son public connaît ou est censé connaître les histoires, et il va énormément s'amuser en déjouant les attentes des spectateurs par rapport à leur connaissance des intrigues antérieures. Par exemple, dans la première saison, elle relate vraiment la rencontre et le début de l'amitié entre Hannibal et Will, qui sont patients au départ et avec lesquels il collabore pour résoudre une enquête du FBI. Et on attend le moment où Hannibal va être arrêté, puisque nous, on sait d'une part qu'il est cannibale, et on sait, parce qu'on connaît les films ou les livres, qu'il va être arrêté à un moment donné. Or, la fin de la saison 1, qu'est-ce que c'est ? C'est Will qui est arrêté parce que c'est lui qu'on prend pour le tueur en série de la saison. Donc on voit que Fuller, à partir des quelques éléments scénaristiques qu'il a, il déjoue complètement, hein, il retravaille, il fait des variations sur un thème et retravaille le matériau pour évidemment déjouer les attentes spectatorielles. Donc évidemment, à mesure que les saisons progressent, le spectateur averti a compris ces mécanismes, et on peut tirer une part de satisfaction en identifiant, voire en anticipant les variations effectuées sur ce thème. Du coup, ça pose la question de la fin. Hein. Cette série, elle s'achève bien avant les romans, puisqu'on s'est dit, on l'a vu, elle s'arrête à la fin de Dragon Rouge, alors que normalement, après Dragon Rouge, il y a tout le Silence des Agneaux et il y a tout Hannibal, le tome qui s'appelle Hannibal. On a vu que c'est une série qui finit sur une note pour le moins radicale, apparemment définitive, en laissant en suspens tous les développements ultérieurs de la fiction de départ. Et ce caractère définitif de la fin est effectivement très très paradoxal quand on y pense. Et donc c'est ce qui m'a intéressé dans une deuxième partie de cette réflexion. Et cette deuxième partie, je dois l'introduire en faisant un mea culpa auprès du comité scientifique, puisque quand j'ai proposé ma communication, j'ai dit la série a été annulée après que la saison 3 a été tournée, et ils ont retourné une fin à la va-vite pour que ce soit une fin, une clôture satisfaisante. Erreur de ma part, je ne sais pas où j'avais lu ça, c'était complètement faux. En réalité, la fin n'a pas été retournée. C'était la fin de la saison 3, telle qu'elle a été prévue par Fuller, et qui appelait donc une saison 4. Quand on sait ça, et qu'on regarde la séquence, c'est pour le moins surprenant, je trouve. Hein, on se demande comment il a pu envisager une saison 4 après avoir tourné cette fin-là. Alors, à un certain niveau de lecture, justement, un spectateur qui fait abstraction de toute cette communication qu'il y a eu dans la presse, dans les médias autour de la fin, sur les réseaux sociaux également, Brian Fuller, il est présent sur Twitter notamment, il parle, hein, il communique sur son travail. Quand on fait abstraction de tout ça, parce qu'après tout, on n'est pas obligé de le savoir, quand on fait abstraction de tout ce métatexte, des articles, des interviews, ben justement, on a tout à fait l'impression que c'est une fin qui était conçue comme une clôture définitive pour dire au revoir, entre guillemets, à la série, au personnage. Donc on peut considérer que tous ces éléments scénaristiques de la saison ont été pensés pour mener vers cette clôture apparemment classique, hein, si on fait appel au principe de causalité régressive tel qu'il est travaillé par Genette ou par Marques Scola, on peut, à partir de cette fin, repenser la série en se disant « mais oui, tout le scénario a été pensé pour nous amener tout naturellement vers cette clôture ». Et en fait, il n'en est rien. Hein, comme je vous le disais, Fuller a communiqué sur ce point. Et donc, quand on n'est pas au courant, finalement, de ce métatexte, de ces métatextes, très bien, ça peut paraître très logique, mais quand on est au courant, ça produit un véritable effet de dissonance, me semble-t-il. On a dans la réception d'un énoncé narratif, ce que Raphaël Baroni appelle un dialogisme, hein, c'est-à-dire, Baroni parle de la manière dont le texte, je le cite encore, s'insère dans une relation interlocutive, simultanée ou différée, et prévoit sa propre actualisation. Et il nous dit, le dialogisme peut être différé, médié par un produit textuel dont l'actualisation par un interprète se réalise en l'absence de l'énonciateur, comme dans le cas des récits écrits. Alors ici, justement, on a une espèce de dissonance, hein, dans l'actualisation de la réception du texte par rapport au moment où il a été créé, conçu, tourné, codé, pour reprendre l'expression de Stuart Hall. Entre l'encodage et le décodage, il y a un décalage, puisque cette fin a été conçue, a été codée comme un simple cliffhanger, au sens propre, puisqu'on est au bord d'une falaise, hein, c'est assez rigolo, et elle est décodée de l'autre côté par le récepteur comme une clôture définitive. Le paradoxe, c'est que malgré cette dissonance, ce décalage apparent, ça coïncide finalement, ça fonctionne. Même si elle a été conçue comme un cliffhanger, cette fin peut être lue comme une vraie fin. Alors si cette fin d'épisode ou de saison fonctionne comme une fin à part entière, ça me semble lié au fait qu'elle est, j'ai envie de dire, bizarrement cinématographique. On a ce caractère définitif de la chute, hein, au sens figuré mais au sens littéral. Là, c'est pas la chute de l'avion, c'est la chute des personnages de la falaise. Et on a ce générique déroulant qui a un dispositif qui me paraît plus cinématographique. Le générique déroulant sur des images diégétiques ça me paraît plus cinématographique que sériel. Hein. Ça me paraît même, au niveau cinématographique, peut-être un petit peu daté. C'est peut-être un procédé un petit peu ancien hein, de faire dérouler le générique sur des images diégétiques. Ce qui est intéressant, c'est que, à l'inverse, si on prend la fin du dernier film, Hannibal, avec Anthony Hopkins, Hannibal se termine sur un gros plan du visage d'Anthony Hopkins. Donc là, on a une espèce d'inversion. Alors, si vous connaissez les autres films, Le Silence des Agneaux, par exemple, ça se termine par un éloignement très classique d'Hannibal Lecter dans une rue. Hannibal Rising, ça se termine aussi par l'éloignement d'une voiture. Là, on est dans quelque chose d'assez classique par rapport à ce qu'évoquait Hélène en introduction. Mais Hannibal, le film, se termine par un gros plan sur le visage d'Anthony Hopkins. La série ne s'achève pas par un gros plan sur les visages. On a les gros plans avant, on les a vus, des très gros plans sur les visages des deux protagonistes. Mais c'est symboliquement assez fort, puisqu'on a la chute au sens propre, mais qui est escamotée, puisque le temps que la caméra bouge pour aller les rejoindre, c'est trop tard, on voit juste l'eau en bas de la falaise, et les personnages, eux, ont été escamotés de la diégèse, ont disparu, véritablement. Alors, je vous le disais, le générique déroulant sur image diégétique, il a quelque chose d'un petit peu surprenant. En même temps, voilà, il a ce côté cinématographique. J'ai trouvé dans l'ouvrage de Nicole de Mourgue sur le générique de fin, le générique de film, une citation de la personne qui avait conçu le générique de West Side Story, le générique de fin de West Side Story. Alors, c'est pas un générique déroulant, mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'on a un choc fort, un personnage qui meurt, et le générique a été conçu par son créateur comme une espèce de... là, l'expression est de moi, mais c'est véritablement le sens de son propos, un véritable sas de décompression, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de la diégèse aussi brutalement. On a besoin de cette espèce de sas pour justement revenir à la réalité en douceur. Donc là, on trouve, je trouve que le dispositif induit le même effet, même si le générique a été conçu différemment, mais on a aussi quelque chose d'assez cinématographique qui est ce plan supplémentaire, ces plans supplémentaires de fin, hein, avec le personnage de Gillian Anderson sur lequel je vais revenir. Ça paraît très cinématographique et très définitif, ce dispositif de plan final, générique et séquence d'ouverture, mais en fait ça avait déjà été employé à la fin de la saison 2 de Hannibal, on peut voir. Alors, je passe très rapidement du coup, puisqu'il faut que j'en arrive à l'analyse proprement dite de ces séquences pour me demander finalement est-ce qu'à la fois narratologiquement et émotionnellement c'est un point final satisfaisant. Alors, spoiler, pour moi, oui, c'est satisfaisant. Là, je vais revendiquer complètement mon statut d'acafan en adoration devant cette série. C'est satisfaisant, mais je vais essayer d'aller au-delà de ces considérations, évidemment, personnelles, pour vous dire un petit peu en quoi j'analyse cette fin comme étant un point final satisfaisant à Hannibal. Alors, très très rapidement, puisqu'il faut que j'aille vite, il y a une troisième strate, entre guillemets, téléologique. En tout cas, il y a un troisième niveau d'attente d'un dénouement ou d'une résolution d'une question dans Hannibal, c'est la question de la, entre guillemets, relation amoureuse, puisque toute la série, elle est sous-tendue par une tension homo-érotique entre les deux personnages principaux. Ça, c'est tout à fait nouveau par rapport au roman et au film. C'est vraiment la spécificité de Fuller qui a voulu queeriser, entre guillemets, toute la diégèse d'Hannibal. Et donc, on attend, est-ce que finalement, la tension amoureuse complètement sous-jacente entre Hannibal et Will va être résolue? Et oui, elle l'est à la fin de cette saison. Dans un épisode précédent, il y a le personnage de Bedelia, donc, qui est joué par Gillian Anderson, qui dit à Will, oui, Hannibal est amoureux de vous. Et dans la séquence finale, c'est quand même la chute des amants enlacés. Donc, cette résolution de la tension amoureuse. Avec, au niveau visuel, hein, énormément d'effets, d'emphase, de lyrisme, avec cette chanson sur laquelle je vais revenir, les gros plans, et puis l'image, évidemment, des corps enlacés qui basculent. C'est une série très, très emphatique, et c'est une série très stylisée, très emphatique, Hannibal, donc là, ça colle tout à fait à l'esthétique de l'ensemble. En même temps, donc on a une résolution, à la fois, de cette tension amoureuse, en même temps que la résolution... d'une part de l'intrigue du dragon rouge et puis tout simplement de la relation entre Will et Hannibal, puisque Will et Hannibal, il y avait ce jeu depuis le début, ami-ennemi, et là on a vraiment une résolution puisque Hannibal a réussi à rallier finalement Will à sa cause, puisque quand Will participe à un meurtre avec lui, il trouve ça magnifique, il le comprend, et donc on a aussi cette résolution là d'un point de vue narratif qui double la résolution amoureuse. Et en même temps c'est une fin qui propose une ouverture avec de la distance et une réflexivité qui permet de replacer la série dans ce contexte intertextuel auquel elle appartient. Hélène parlait tout à l'heure de la tentation du filmique à la fin des séries. J'ai pas pu le montrer parce que c'était trop long, mais on a une véritable mise en abîme avant le combat final avec le personnage du dragon rouge. Le personnage donc qui s'appelle Dollar Hyde, le dragon rouge, installe une caméra pour filmer la rencontre et dit le film va être magnifique, puisque toute l'intrigue en fait porte autour du filmage, des vidéos de famille, etc. Il dit le film va être magnifique, mais pas aussi beau que la réalité. Donc là, on a cette mise en abîme qui justement se tourne du côté de cette tentation du filmique au moment de la fin. Pour aller très vite, justement, la fin me paraît intéressante parce qu'elle trouve un équilibre entre le fait de payer son tribut aux œuvres précédentes auxquelles la série appartient, et on a notamment des références, voilà, j'ai fait très rapidement ce petit montage, entre le film Hannibal en haut et la séquence finale avec Gillian Anderson, on a des rimes visuelles, une installation et même un principe qui est le même, puisque dans les deux scènes, ce ne sont pas les mêmes personnages, on a retravaillé le matériau, mais il y en a dans les deux cas un personnage qui va être amené, de par l'influence d'Hannibal, à se manger lui-même. En haut, le personnage de Paul va être amené à manger son propre cerveau, et en bas, Gillian Anderson, à la vue, s'apprête à déguster sa propre jambe. Donc, d'un côté, on a vraiment cette réinscription dans quelque chose d'intertextuel, de palimpsestique, ça se voit même au niveau visuel, les choix de décor, de costume, de cadrage, etc. Et en même temps, donc la série, au moment où elle se termine, paye son tribut aux œuvres précédentes, et en même temps, elle s'en affranchit. Elle s'en affranchit à plusieurs égards. Déjà, ce qui est très intéressant, c'est que le personnage qui permet l'ouverture, qui permet de transmettre l'héritage d'Hannibal, qui c'est le personnage de Bedelia, joué par Gillian Anderson, qui est un personnage original. Ce n'est pas un personnage qui appartient à la diégèse originale. Elle a été inventée par Fuller, et c'est elle, finalement, qui assure ce relais. C'est grâce à elle, ce personnage novateur, original, que la série se poursuit. Et puis, on a la chanson. Là aussi, c'est quelque chose de plus cinématographique que sériel. La chanson a été composée pour la série. La chanson qui s'appelle Love Crime, avec les paroles, si vous écoutez, qui dit notamment « Je te survivrai hein, ». Donc, évidemment, on peut se demander, est-ce que c'est un indice disant que Will et Hannibal vont survivre. Mais même s'ils sont morts, eh bien, l'héritage d'Hannibal lui survit de par ce personnage de relais qui est interprété par Gillian Anderson, donc qui permet de trouver l'équilibre entre les références intertextuelles et puis l'innovation et l'affranchissement, la prise d'envol par rapport aux œuvres de départ. Donc voilà, j'ai dû aller un petit peu vite, mais pour conclure, donc ce qui m'a intéressé, c'est que cette fin, qui n'était pas censée en être une, qui en est une de par les aléas de la production, arrive malgré tout à apporter une clôture que je trouve satisfaisante pour ces différentes raisons, à la fois dans la résolution narratologique et dans la façon de prendre en charge les émotions des spectateurs. Alors, excusez-moi, j'ai pas eu le temps d'évoquer justement les réactions et le ressenti des spectateurs, ça aurait mérité tout un pan d'études sur la réception. Ça a produit, chez les fans, hein, je vous dis, il y a une fanbase assez investie, des réactions extrêmement fortes, du style je ne pourrais plus jamais regarder la télé, des choses comme ça. Il y a eu vraiment des témoignages de personnes qui ont vécu ça de manière très très forte, mais ça ne fait pas forcément quelque chose de négatif. Pour moi, je rapprocherais ça justement de la fin un peu de Six Feet Under, qui produit une espèce de tremblement de terre intérieure et de déferlante d'émotions, avec ce sentiment de deuil extrêmement aigu. Mais est-ce que ça veut dire que la fin est ratée? En aucun cas. Et justement, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que cette œuvre, qui participe de quelque chose de culte, entre guillemets, puisqu'on a un matériau qui est retravaillé par différents créateurs et par les imaginaires collectifs, eh bien, réussit à la fois à rendre hommage, à s'inscrire dedans, et en même temps, à jusqu'à la fin, s'en affranchir, prendre son envol, et tient très bien l'équilibre entre les deux. Je vous remercie. Merci.